Seigneur pour la présence de chacun ici et pour tout ce que nous avons déjà entendu. Quel privilège d'être exposé à la mission et à ce qui se passe en Mérignac au travers la distribution de la parole de Dieu, les Gédéons et le témoignage de Claire, missionnaire à Agapé. Alors on a déjà entendu beaucoup de choses, je ne sais pas si vous allez être prêts encore à entendre quelque chose, mais ce serait dommage peut-être de ne pas profiter de ce dimanche missionnaire pour exposer la parole de Dieu et nous donner un défi concernant la mission de tous et chacun. Alors je vous invite sans plus tarder à regarder avec moi Matthieu chapitre 28 et versets 18 à 20. Je ne sais pas si on pourra terminer ce matin le message préparé. Nous lisons, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Ainsi, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Juste en introduction, un petit témoignage personnel. J'ai eu l'occasion, puisque vivant au Canada avec mon épouse bien-aimée, nous avions l'occasion parfois d'aller parler du Québec et de l'œuvre missionnaire du Québec aux États-Unis et dans différentes églises. Et alors, nous avons été invités à une convention missionnaire et j'étais l'orateur et on m'a demandé de prêcher sur ce passage. Et comme c'était une assez grande église qui chaque année une convention missionnaire, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais pouvoir leur dire ? Qui n'a pas entendu aux États-Unis prêcher la commission, enfin le mandat de Dieu ici, aller faire toutes les nations des disciples, etc. Il m'a dit, mais qu'est-ce que je vais pouvoir dire ? Alors j'étais assis dans mon sofa à la maison et je priais dans mon salon. J'ai dit, Seigneur, écoute, je ne sais pas quoi dire moi. Et je vais vous dire, le message que je vais vous partager ce matin, du moins en partie, je ne sais pas si on arrive jusqu'au bout, mais le Seigneur me l'a donné comme ça. C'est merveilleux ça, hein ? J'aimerais que toutes les semaines, le Seigneur me donne un message comme ça. En quelques secondes, le Seigneur m'a donné le message, pof, est venu, et j'ai prêché de tout mon cœur, et le Seigneur était bon pour moi. Une autre petite anecdote, c'est qu'en fait, j'ai pris le train un jour pour aller à Paris, pour enseigner, et j'ai oublié ma Bible avec 4-5 messages. Souvent, ça m'arrive d'avoir des messages qui traînent dans ma Bible, et notamment toutes mes notes au sujet de ce message. Et j'ai dit, waouh ! Alors, ça fait un moment que je ne l'ai pas prêché, ce message. Je me suis dit, mais non, mais j'ai les notes en anglais. Donc, hier, j'ai cherché partout les notes en anglais, impossible de les trouver. J'ai dit, mais comment je vais faire ? Bon, j'avais la mémoire un petit peu du message, je vous dis ça, parce que j'ai prié. Et figurez-vous qu'en cherchant, après quelques minutes quand même, j'ai trouvé un article que j'avais écrit sur le journal de l'Alliance chrétienne et missionnaire à l'époque, qui s'appelait Perspective, tout le message. Alors, gloire à Dieu, Loïs l'a retapé, merci à mon épouse bien-aimée. Et donc, j'ai retrouvé mes notes. Bon, pour aller à l'essentiel, nous allons donc regarder ce matin ce passage qui est évidemment un passage clé. C'est le mandat de Dieu pour son Église. Et je dirais que c'est un appel pressant que Dieu adresse à son Église. Un appel pressant que Dieu adresse à son Église. En fait, ce sont les dernières paroles de Jésus. Il y a aussi, vous serez mes témoins, vous recevrez une puissance du Saint-Esprit. Mais ce sont les dernières paroles de Jésus avant qu'il soit enlevé aux yeux de ses disciples. Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur, observez tout ce que je vous ai prescrit. Alors voilà ce que Dieu m'a fait comprendre. Ici, il y a tout d'abord l'appel de Dieu, allez. Et puis il y a la vision de Dieu, les nations. Et puis il y a le programme de Dieu, c'est faire des disciples. Donc Dieu a un appel, Dieu a une vision, et Dieu un programme. Et la question ce matin que Dieu nous adresse est celle-ci. Avons-nous une part dans l'évangélisation du monde ? Quelle est votre part dans l'évangélisation du monde ? Avez-vous répondu à l'appel de Dieu ? Est-ce que vous avez la même vision que Dieu a, c'est-à-dire le monde à gagner, on se comprend? Et est-ce que nous suivons le programme de Dieu, c'est-à-dire faire des disciples? Est-ce que nous avons vraiment une part dans l'évangélisation du monde? Est-ce que j'ai répondu à l'appel de Dieu? Est-ce que j'ai la même vision de Dieu? Est-ce que je suis en train de faire des disciples? Et c'est la question que Dieu nous pose ce matin. Alors je dirais, et je m'empresse de dire, que c'est une mission qui est impossible. J'appelle cela mission impossible parce que s'il n'y avait pas les deux promesses que Jésus nous a laissées, qui en fait sont en introduction, en conclusion de ce mandat, nous ne pourrions jamais réaliser ce mandat, qui devient une obligation, un devoir. Ici, Jésus a dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ». Nous avons besoin de son autorité et de toute son autorité pour combattre l'ennemi, le diable, qui ne veut pas que les âmes soient gagnées au Seigneur Jésus. Et nous avons besoin de sa présence à tous les jours, parce qu'elle est indispensable dans ce ministère particulier de l'évangélisation du monde. Bien sûr que c'est tous les jours que nous avons besoin de la présence de Christ, mais particulièrement dans ce ministère d'évangéliser le monde. Nous avons besoin de cette autorité qui nous a été déléguée. Jésus a dit en Jean 15, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Donc cette œuvre est impossible à réaliser sans l'accomplissement de cette promesse de recevoir la puissance du Saint-Esprit et de partager avec autorité spirituelle cette bonne nouvelle parce que remplie du Saint-Esprit et de l'autorité spirituelle que Dieu nous délègue face aux ténèbres et à la puissance de ce monde. J'aimerais vous raconter une anecdote, mais avant vous dire aussi et ajouter en Jean 15, il est écrit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Dieu nous promet d'être avec nous, qu'on ne peut rien faire sans lui, mais qu'il va agir. Alors j'aimerais vous raconter une petite anecdote, peut-être deux de temps en temps, pour enrichir, illustrer un petit peu ce message ce matin. Je me souviens une fois, ma femme et moi, nous étions assis dans notre salon après un culte. En début d'après-midi, quelqu'un frappe à la porte. On n'a pas le temps d'arriver à la porte de notre appartement. La personne ouvre et nous dit « Qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé ?» Ça vous est déjà arrivé à vous, cela ? Moi, ça m'est arrivé une fois dans ma vie. Alors, c'était une demoiselle, une jeune dame. Je dis « Oui, oui, qui vous êtes ?» Moi, je m'appelle. « Ah bon, mais écoutez, bienvenue, mais qui vous envoie ici ?» Ah ben écoutez, il y a quelqu'un de votre église que j'ai rencontré qui m'a dit tout ce qu'il savait au sujet du salut. Puis après, il m'a dit, écoute, je t'ai dit tout ce que je sais et maintenant, je ne peux pas te dire plus. Donc, je t'invite à aller voir mon pasteur, il lui donne mon adresse. Et comme c'était pressant chez cette jeune fille, elle arrive chez nous comme ça, précipitamment. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? Assoyez-vous, évidemment, on est heureux avec ma femme, assoyez-vous, je vous en prie. Commence à lui parler du Seigneur, et oui, oui, vous êtes au bon endroit, ça me fait plaisir de vous recevoir. On essaie de la mettre à l'aise, et tout d'un coup, on sent une présence, pour raccourcir un petit peu l'histoire, on sent vraiment une présence de l'adversaire. Mais vraiment, des ténèbres, une présence, vous savez, quand vous parlez à quelqu'un de Jésus, tout d'un coup, vous sentez quelque chose, vous dites, qu'est-ce qui se passe ? Et elle nous raconte son histoire. Cette jeune fille, pour échapper à ses parents, parce qu'elle avait été renvoyée, est partie, et pour vivre, s'est prostituée. Et puis aussi, elle a mélangé la prostitution avec l'occultisme. Et on comprend tout cela, et donc ma femme, qui avait l'habitude d'avoir une petite chaîne de prière avec les membres de l'église, téléphone, et voilà, la chaîne de prière démarre dans l'église, et on prie, et cette jeune fille a accepté le Seigneur Jésus. Et nous avons chassé l'adversaire. À quel nom ? Notre nom ? Surtout pas au nom de Jésus-Christ. Et savez-vous, ça a marché. Et quelques temps après, nous l'avons visité avec un diacre de l'église et nous avons pris le temps de l'entourer. Et dans cette visite, chose étonnante, moi le pasteur, entre guillemets, comme chacun de nous, incapable d'ouvrir la Bible, incapable de prier, incapable de partager des choses spirituelles. Et je suis retourné, j'ai dit, Michel, ta vie quelque part va mal, qu'est-ce qui se passe ? Mais mon frère diacre bien-aimé avait la même expérience. Et alors en parlant, finalement, cette jeune femme nous a dit qu'encore chez elle, elle avait toutes sortes de présences de l'adversaire et qu'elle ressentait des mouvements dans son appartement. Et c'était là où elle avait pratiqué l'occultisme, c'est là qu'elle avait encore toutes sortes de vêtements indécents. Et nous sommes allés par la foi avec le même frère. Et nous avons compris qu'il y avait une oppression spirituelle qu'elle vivait déjà, qu'elle partageait et qu'elle nous partageait. Et nous avons prié sans avoir absolument aucun sentiment particulier, si ce n'est pas la foi. Seigneur Jésus, fais le ménage dans cet appartement, chasse l'adversaire. Savez-vous quoi? Dieu a purifié cet appartement, elle n'a jamais plus entendu du bruit dans cet appartement, jamais plus ressenti une oppression dans cet appartement. Et mon épouse y est allée une autre fois pour vider le garde-robe, n'est-ce pas? Cette jeune fille, alors je suis ému, excusez, en parlant tout d'un coup, parce que ça me rappelle les bons souvenirs du Québec, mais cette jeune fille, on l'a revue, elle avait perdu tous ses cheveux, elle était surfaite partout dans son attitude, avec une grosse perruque très lourde, elle a été transformée. Et un jour, on a appris qu'elle s'est mariée. Ça, c'est la puissance, l'autorité spirituelle de Jésus-Christ. Pas la nôtre, la sienne. Une autre anecdote, si vous me permettez. Nous avons eu le cas d'une jeune fille qui était très impliquée dans l'occultisme à Québec. Et nous l'avons visitée avec notre cher frère Feu Alain Choiquier et notre membre Marcel Perron, que vous connaissez. Et cette jeune fille nous a dit, si vous vous intéressez à moi, vous allez avoir toutes sortes de problèmes. Enfin, une histoire brève, sans croire qu'on n'est pas protégé par le Seigneur Jésus, mais je me suis retrouvé à l'hôpital avec toutes sortes de douleurs terribles et je ne savais pas d'où ça venait, les médecins non plus. Et c'était en fin de semaine, le lundi j'avais passé toutes sortes d'examens. Et je me souviens que Louis avait demandé la prière et dans mon lit d'hôpital, allongé, en douleur, avec des spasmes très importants dans le ventre, je me suis assis et j'ai dit « Seigneur Jésus, si cette douleur ne vient pas de toi, au nom de Jésus-Christ, je chasse l'ennemi. » Savez-vous quoi? J'ai ressenti une onction de Dieu depuis la racine des cheveux jusqu'à la plante des pieds, une guérison totale. Après, il fallait que je passe les examens. Ça, c'était moins agréable. Mais ça montre tout ça pour illustrer la puissance de Dieu, le sang de Jésus. Vous savez, le nom va me revenir. Il y avait un évangéliste de la Hollande qui, à un moment donné, était dans sa chambre en Suisse allemande où il faisait ses études. Et à un moment donné, il s'est senti poussé à se suicider. Une attaque terrible de l'adversaire. Et il y avait un jeune frère qui est arrivé à l'approche du parc, parce que c'est dans les montagnes, en dessus d'Interlaken, et a dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Alors c'était un jeune homme qui n'était pas très, semble-t-il, sociable, qui passait beaucoup de temps dans sa chambre, on se demandait qu'est-ce qu'il faisait. Et alors, Et alors ce frère lui dit, mais tu sais, j'ai eu quelque chose de terrible, je me suis senti poussé à me jeter et à me suicider. Et ce frère l'a regardé, oui je sais, comment ça tu sais? J'étais dans ma chambre, comme d'habitude en train de prier, et Dieu m'a dit, va voir Pierre. Et il est en danger, et prie pour lui. Ça montre que Dieu a une autorité particulière. Je donne une autre anecdote pour introduire le sujet, pour montrer l'autorité spirituelle, la présence dont on a besoin. Vous savez, je ne sais pas si vous avez fait le service militaire. C'est la vieille génération, cela. Mais à mon époque, on faisait le service militaire d'un an et j'allais à Besançon. Mais à Besançon, quand j'ai joué au football, tout le monde était d'accord. Mais quand j'ai commencé dans ma chambre à montrer la Bible, à parler de Jésus, là, la persécution est née. Et on m'a demandé d'écrire un article sur un journal. Je dis, tiens, je vais écrire un article sur l'énergie solaire, puisque c'était l'objet de ma thèse. J'étais un passionné d'architecture d'énergie solaire. Et il m'a dit, non, mais toi qui lis la Bible, écris-nous un article sur la Bible. Donc j'ai écrit un article sur la Bible. Mais savez-vous quoi? La réaction après de la persécution à tous azimuts. À un moment donné, j'en pouvais plus, je suis sorti, je suis allé dans un parc, et j'ai dit, écoute Seigneur, moi je veux bien être ton témoin, mais il faut m'aider. Et là c'est pareil, Dieu m'a rassuré avec une onction particulière, il m'a dit, oui, oui, je suis avec toi. Nous avons besoin de l'autorité spirituelle de Jésus. Et nous avons besoin de sa présence qui nous réconforte, une présence de toute grâce en toute situation, parce que c'est lui seul qui peut faire la différence. Et là même où nous sommes incapables, affaiblis, c'est lui qui est en train d'agir, comme a dit notre sœur Claire ce matin, « Ma grâce te suffit ». Alors l'appel de Dieu, en quoi consiste l'appel de Dieu ? Je ne sais pas si vous voulez voir, oui, peut-être je dois être plus technique alors à l'instant. L'appel de Dieu, sa vision, son programme, l'appel de Dieu, entouré de ces deux promesses, un appel pour tous, un appel précis, un appel spécifique, un appel exigeant, je vous résume ça. Nous sommes appelés à servir, nous sommes sauvés pour servir. Or, il se trouve qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que certains sont appelés à évangéliser, d'autres pas. Autrement dit, vous avez le don d'évangéliste ou vous ne l'avez pas. Est-ce que c'est biblique cela ? Si vous consultez les dons, c'est sûr que la liste n'est pas exhaustive, en 1 Corinthiens 12 et 13, il y a quand même, et en Romains, vous avez une liste de dons, n'est-ce pas ? Mais on ne voit jamais le don, écoutez-moi bien, d'évangéliser. Oui, on voit le don d'évangéliste. C'est un don d'homme que Dieu donne à l'Église en Éphésiens 4, verset 11. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs-docteurs, pasteurs-enseignants. Mais en fait, il y a des dons d'évangélistes, et on en connaît plusieurs, n'est-ce pas, d'évangélistes qui, dans l'Église locale, autant dans l'Église universelle, ont un ministère qui glorifie le Seigneur et nous édifie dans la vision de l'évangélisation. Mais qu'en est-il du don d'évangéliser ? Est-ce que c'est réservé seulement aux évangélistes que Dieu donne comme des dons d'hommes à son Église ? Non. Nous sommes tous appelés à servir le Seigneur. Comme a lu d'ailleurs notre sœur Claire, elle a lu en Romains chapitre 10, « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru ?» Ce ne sont pas les témoins de Jéhovah qui passent des heures à faire du porte-à-porte qui vont amener des gens au paradis, n'est-ce pas ? Parce que si vous les croyez, vous n'aurez jamais l'assurance du salut. Alors c'est qui va annoncer la bonne nouvelle ? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche ? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles ? Le Seigneur nous appelle à le suivre, à le servir. On n'a pas le temps de regarder cela, mais ce serait passionnant de regarder à Matthieu 4 les premiers appels des disciples. Jésus s'est tourné vers deux pêcheurs, n'est-ce pas ? C'était Simon et son frère André. Et il leur a dit, « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Et ensuite, il s'est adressé à Jacques, il s'est adressé à son frère Jean, et il leur a dit la même chose. Et savez-vous quoi ? Ils ont quitté aussitôt leur filet pour le suivre. Jésus, lorsqu'on le suit, nous appelle à être des pêcheurs d'hommes, et cela est un appel pour tout croyant. C'est un appel qui s'adresse à tous les croyants. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisants et les enseignants. C'est un appel précis parce que c'est un appel qui est mesurable. Dans le sens que dans le grec, ici, on ne le voit pas dans notre traduction, puisque c'est un impératif. C'est vrai qu'il y a une urgence, un impératif à évangéliser. Mais dans l'original, ici, le mot est au participe présent. On pourrait traduire comme ça, « Allant, fait toutes les nations disciples, les baptisants, les enseignants. » Ce sont des participes présents. Cela veut dire, participe présent, qu'il y a une continuité permanente d'un style de vie, d'une motivation de cœur qui fait que on est en train d'évangéliser. On ne se lève pas tout d'un coup en disant, ça y est, je me lève d'un seul coup, Dieu m'appelle à évangéliser, j'ai un sentiment que Dieu m'appelle tout d'un coup à évangéliser. Non, c'est une disposition de cœur permanente et quotidienne pour annoncer la bonne nouvelle, pour glorifier le Seigneur. C'est un style de vie quotidien. D'ailleurs, faites l'expérience et demandez au Seigneur, en vous levant le matin, si vous êtes un croyant spirituel qui désire glorifier Dieu, et dites-lui, dans la journée, de placer dans votre cheminement ou travail, peu importe, quelqu'un à qui parler du Seigneur, vous allez être étonné. Les occasions que Dieu va vous donner, on les appelle parfois les rendez-vous divins, n'est-ce pas ? La Bible dit qu'on est le sel de la terre et la lumière du monde. Vous êtes le sel, la terre, la lumière du monde. Ce ne sont pas les autres, c'est nous les croyants. Est-ce que nous sommes ce que Dieu déclare que nous sommes ? Nous sommes le sel, la terre, la lumière du monde. Le sel a pour but de donner envie aux autres afin qu'ils goûtent ce que nous goûtons, la présence de Christ. Notre sel divin, Christ, a donné goût à notre vie, n'est-ce pas ? Il a transformé nos vies. Il nous a régénéré, notre personnalité s'épanouit en lui et brille comme la lumière du monde. Et cette clarté en nous, la lumière de Christ en nous, rend visible ce Dieu invisible. Comment les gens vont connaître Dieu ? Ils vont le connaître à tâtons. Mais s'ils voient la clarté, la vie de Christ chez le croyant qui fait la différence, notre frère Nathanaël a parlé de l'amour et autres, et Claire aussi, s'ils voient Jésus en nous, ils vont avoir envie de connaître ce que nous connaissons. Nous rendons visible ce qui est invisible en quelque sorte. Bien sûr que Dieu parle par la création et l'univers, par la conscience et par Jésus et par les Écritures, mais il a besoin de témoins vivants. Or, nous sommes ces témoins vivants. Quel privilège, mais aussi quelle responsabilité. C'est aussi un appel spécifique, comme j'ai dit, c'est un appel qui a besoin d'une réponse. Il est écrit, lorsque Jésus a dit « Suivez-moi, je vous ferai pécheur d'hommes », aussitôt ils laissèrent les filets et le suivirent. C'est un appel qui demande une réponse. C'est un appel qui nous lance, qui est lancé par Dieu, créateur de la terre. Et dans cette dernière parole, Jésus nous dit « Voilà, allez, tout en allant évangéliser, tout en allant faites des disciples. » Donc nous avons besoin d'une réponse et de savoir si dans ce domaine, et j'ose le dire ainsi, nous sommes obéissants ou désobéissants au mandat de Dieu. Et enfin, c'est un appel exigeant parce que il faut reconnaître qu'en Jean 15 notamment, Jésus, après nous avoir dit qu'on ne peut rien faire sans lui, qui nous envoie, n'est-ce pas, pour apporter du fruit qui demeure, il dit aussi, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Celui qui voudra vivre pieusement, Jésus-Christ sera persécuté. Il ne faut pas s'étonner que notre témoignage dérange quelque part. Et parfois, nous avons des ennemis malgré nous-mêmes, parce que notre vie parle assez fort et elle dérange la vie des autres. Parce que la vie sanctifiée d'un croyant, transformée, dérange les autres. Parce qu'elle projette la lumière de Christ d'une vie de transformation et d'un Dieu de vérité et d'un Dieu de justice, sachant que l'issue, c'est la vie ou c'est la mort. C'est la vie éternelle ou c'est la mort éternelle. Et bien sûr, tant que nous résistons par orgueil, on ne peut pas se convertir. Et c'est pour ça que nous avons, nous les enfants de Dieu, et nous étions aussi des rebelles, et par la grâce, Dieu nous a visités, nous comprenons la rébellion dans une certaine mesure des autres. Mais il n'empêche pas moins, une fois convertis, nous nous faisons des ennemis. Ça, c'est l'appel de Dieu. Nous allons regarder maintenant la vision de Dieu. Ce n'est pas mon appel, c'est son appel. Ce n'est pas ma vision, c'est sa vision. Quelle est la vision de Dieu ? La vision de Dieu, c'est le monde à gagner. Nos frères Gédéron distribuent depuis plus d'un siècle des Bibles dans le monde entier et on entend partout, là où on va, entend les Gédéron témoigner, n'est-ce pas, de conversion dans les hôtels et ailleurs grâce à un Nouveau Testament qui démontre la puissance de la parole de Dieu. Jésus a dit, vous recevrez une puissance du Saint-Esprit et vous serez mes témoins, qui a donné le mot plus tard martyr d'ailleurs, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Est-ce que ce témoignage était demandé par Dieu uniquement au travers de Jésus-Christ à son Église d'aujourd'hui ? Non. Nous oublions que déjà dans l'Ancien Testament, Israël était élu pour être le témoin d'un Dieu unique. Schéma Israël en Deutéronome. Il est le seul Dieu, le seul éternel. Et la Bible dit, c'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'éternel. C'est moi qui suis Dieu. Israël a eu la révélation d'un Dieu unique, de Dieu, Yahweh, afin qu'il partage la connaissance de qui est Dieu. N'ayez pas peur, ne tremblez pas, ne te lèche pas dès longtemps, annoncé, déclaré, c'est en Ésaïe, vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi ? Nous pouvons avoir la force de communiquer un témoignage de Dieu parce que nous connaissons Dieu. C'est merveilleux cela. C'est parce que nous connaissons Dieu, qui est un Dieu unique, que nous pouvons l'annoncer, n'est-ce pas? La Bible dit dans l'Ancien Testament, et Dieu ajoute en Ésaïe, « Car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. » La vision de Dieu est communiquée à ses enfants, son peuple, à son Église, dans la prière. Faute de vision, dit la Bible, mon peuple périt. Quand l'Église n'évangélise plus, quelqu'un a dit, elle meurt. Lorsque l'Église a perdu la vision de Dieu qui est le fardeau du salut des hommes, elle perd son dynamisme, elle perd sa raison d'être. Dieu a un fardeau pour le monde perdu, toute nation, tout peuple qui se trouve sur cette terre. D'ailleurs, Billy Graham a écrit un livre qui s'appelle « À toutes les nations ». Et on pourrait développer ce sujet, comment Dieu suscite, n'est-ce pas, dans le cœur de ses enfants, d'avoir en vue, pas simplement ce qui se passe d'un point de vue local, mais la vision du monde perdu, et atteindre les hommes et les femmes qui ne connaissent pas le Seigneur jusqu'aux extrémités de la terre. Et pour cela, Dieu utilise des hommes et des femmes, et ça peut être nous, qui vont jusqu'aux extrémités de la terre. Alors que nous étions dans un bain de sang lors de la Révolution française, William Carré, un simple cordonnier qui travaillait à réparer les chaussures, avait mis une map monde du monde sur son mur et prié pour le salut des âmes, jusqu'à ce que Dieu l'a appelé d'aller et fonder la première mission protestante en Inde, 1792. Alors qu'il y avait déjà des missions catholiques, mais il n'y avait pas une mission protestante. C'est William Carey qui est reconnu par les historiens comme le père de la mission protestante. Et cela est né dans son cœur, dans la prière. Attention, il y a un danger. Si nous commençons à prier pour le salut des hommes, il se peut que Dieu nous envoie bien loin, tout en nous utilisant bien proche. On va y venir. Hudson Taylor, ce missionnaire qui est parti en Chine, n'est-ce pas ? On dit que Hudson Taylor a gagné la Chine quelque part. Lui, il était à genoux sur la map monde, sur la carte de la Chine. Il priait que Dieu envoie des ouvriers. Il priait pour le salut des âmes. Et personne ne voulait l'envoyer en Chine. Il s'est fait chinois. Parmi les Chinois, il s'est mis une coiffure, un vêtement, comme les Chinois, pour gagner les Chinois. On l'a pris pour un fou. On s'est moqué de lui, Hudson Taylor. Un jour, il a visité, alors qu'il était étudiant en médecine, une famille, dont un couple dont l'épouse était bien malade, et le père réclamait instamment de l'argent pour pouvoir soigner sa femme, avoir des médicaments. Et Hudson Taylor s'est souvenu qu'il avait mis tout ce qu'il possédait dans sa poche, une couronne, monnaie anglaise, et il remuait ça dans sa poche, et d'un coup, il a eu une lutte, lui qui voulait gagner la Chine, n'est-ce pas ? Il fallait quelque part, d'abord, qu'il soit vaincu. Parce que pour servir le Seigneur, d'abord, il faut être vaincu. Il n'y a pas de victoire sans d'abord être brisé. Et Hudson Taylor a sorti cette pièce. Il a donné tout ce qu'il avait pour soigner cette femme. Et Dieu a fait de rien un homme comme ça qui avait appris à tout donner. Un homme qui a pu conquérir la Chine pour la gloire de Dieu. Un jour, il s'est levé. Il a demandé au Seigneur... 4-5 missionnaires qui l'accompagnent. Un jour, une autre année, il a prié pour 10 missionnaires qui l'accompagnent. Et une année, écoutez-moi bien, sans garantie d'aucun soutien, il a demandé au Seigneur de lui donner 100 missionnaires. Savez-vous quoi ? Dieu a suscité dans le monde, particulièrement anglophone, 100 missionnaires qui sont partis en Chine, le rejoindre pour conquérir la Chine. Un homme de foi, n'est-ce pas ? Sans parler de Charleston, un de mes missionnaires favoris, pour ceux qui me connaissent, ils le savent, un homme que Dieu a appelé d'une famille aisée, champion du monde de cricket, avec son université, Dieu l'a appelé à tout quitter pour aller aussi en Chine, en Inde, en Afrique, et il a eu un ministère assez extraordinaire, mais si vous lisez sa biographie, vous allez voir que le prix qu'il a payé, c'est de donner sa vie pour gagner les autres. Adoniram Johnson, en Birmanie. Oh, la liste est longue. Et je pense aussi à William Booth. Je dois limiter à l'instant ma liste et les anecdotes. Mais William Booth est un homme, n'est-ce pas, qui se promenait dans les rues d'Angleterre alors qu'il y avait la famine, carrément, une crise économique due à la crise du charbon terrible. Et il se promenait avec une grosse caisse, n'est-ce pas, devant son ventre. Il mettait une chaise dans la rue. Il prêchait l'évangile. Et les gens se convertissaient. Les ivrognes se convertissaient. Les prostituées se convertissaient. Et c'est pas lui qui s'est appelé Armée du Salut, c'est un journal qui ont appelé ces gens-là. Ces chrétiens nés de nouveau, qui étaient engagés comme des soldats, on les appelait l'Armée du Salut. Et ils avaient sur le revers de leur veste deux lettres, SS. Ça, c'était pas l'armée hitlérienne, c'était l'armée du Seigneur, SS, sauvé pour servir. C'est merveilleux tout ce que Dieu a fait. Un jour, quelqu'un a frappé à la porte d'Hudson Taylor. Hudson Taylor, vous êtes un grand homme de Dieu, vous avez une grande foi, vous faites de grandes choses. Et c'était un jeune homme, et Hudson Taylor, dans son bureau, il dit humblement, il dit, écoutez, asseyez-vous là un petit peu. Il dit, non, moi je suis pas, j'ai pas une grande foi, je ne suis rien. J'ai même une petite foi, mais j'ai un grand Dieu. Quelle est la vision qu'on a de Dieu? Notre vision et notre action dépendent de la vision qu'on a de Dieu lui-même. Si nous croyons que Dieu est grand, notre vision va s'élargir, notre action va s'élargir, parce que rien n'est impossible à Dieu. Vous êtes dans une situation où vous dites, mais comment Dieu peut-il agir? Rien n'est impossible à Dieu. La vision de Dieu nécessite aussi la foi et la prière. Jésus a dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Prions donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Nous nous sommes réjouis du fait que Nathanaël et Fanny aillent à Mérignac, mais ils étaient bien seuls. Nous avons prié que Dieu suscite un couple missionnaire. Et je peux vous dire qu'à ce moment-là, on n'avait aucune idée de la façon avec laquelle Dieu allait envoyer un couple missionnaire. Ça semblait impossible, en tout cas, à l'intérieur même de notre mission. Et Dieu l'a fait. Et nous prions et nous continuons à prier que Dieu envoie d'autres personnes pour aider ce cher couple et développer, n'est-ce pas, des amitiés avec d'autres personnes qui peuvent présider les réunions et s'occuper de bien des choses dans l'Église. C'est la réponse à la prière. Il est impossible de se plonger dans le cœur de Dieu et ne pas avoir son fardeau qu'est le monde. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu a la vision du monde perdu. Dieu veut sauver tous les hommes. Est-ce que vous le croyez cela? Cela est bon et agréable devant Dieu qui veut sauver tous les hommes. Et afin qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Et ça commence, ça a déjà un peu été dit ce matin, mais ça commence d'abord par les gens qui sont proches de nous, notre nation. Est-ce que nous prions pour la France qui ait un réveil? Est-ce que nous prions pour nos familles, nos voisins, nos collègues de travail, tous ceux que nous côtoyons chaque jour, là où le Seigneur nous place? Vous avez un père ou une mère qui ne connaît pas le Seigneur, vous avez un enfant qui ne connaît pas le Seigneur, vous avez un petit enfant qui ne connaît pas le Seigneur. Est-ce que vous priez pour cela? Est-ce que vous êtes à genoux en train d'agoniser pour le salut de leur âme? Parce qu'il s'agit d'une issue éternelle, de la mort éternelle ou de la vie éternelle. Nous devons nous mettre à genoux, frères et sœurs, à prendre à la prière, à demander à Dieu et supplier Dieu qu'il fasse une différence. Nous devons apprendre à prier de tout notre cœur. John Knox a dit une fois, « Seigneur Jésus, donne-moi l'Écosse où je meurs. » Son fardeau était tellement fort qu'il ne pouvait pas penser une seconde de plus vivre si Dieu n'intervenait pas dans son pays. Et on sait que Dieu a suscité un réveil, n'est-ce pas ? Extraordinaire, qu'a gagné l'Écosse, qu'a gagné l'Irlande, qu'a gagné l'Angleterre. Un homme, une sentinelle, qui s'est tenu devant Dieu pour plaider en faveur d'un peuple. Dieu cherche des hommes et des femmes qui soient des sentinelles pour être à genoux essentiellement avant de se lever pour Dieu et de supplier Dieu d'intervenir. Combien de temps passons-nous, frères et sœurs, osons évaluer notre vie de prière? Combien de temps passons-nous réellement chaque jour dans la prière? Est-ce que nous sommes prêts à sortir de notre confort pour demander à Dieu des choses précises concernant le salut des âmes? Non seulement nous devons évangéliser là où nous nous trouvons, mais bien sûr aller jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu veut sauver toute nation, tout peuple. Et c'est vrai qu'en France, ici, on a une bonne représentation, n'est-ce pas, du monde quelque part. Donc n'oublions pas notre responsabilité de gagner tout peuple, toute ethnie, toute nation, et évidemment la nôtre. Oswald Smith, dans son livre « La passion des âmes », si vous lisez ce livre, vous allez être bouleversé, et disait que plus le phare à sa source est intense, plus il porte au loin, plus une église, plus un chrétien brille, intensément à sa source, plus il ira loin porter l'évangile. Nous ne pouvons pas prétendre évangéliser les extrémités de la terre si nous ne sommes pas engagés déjà là où le Seigneur nous a placés. Le fardeau missionnaire ne vient pas parce que tout d'un coup on dit « oui, je vais aller dans ce pays, c'est l'appel de Dieu, ça va aller beaucoup mieux ». C'est pas du tout cela. D'abord, on doit faire ses preuves là où Dieu nous a placés. Nous avons un témoignage précis Et c'est là où Dieu nous demande de briller, d'être le sel de la terre. Alors avons-nous une part dans l'évangélisation du monde? Est-ce qu'on a déjà répondu à l'appel de Dieu? Est-ce que nous avons la même vision que Dieu a lui-même? Quel est le programme de Dieu? Chaque année, notre Église et les Églises ici et là, partout dans le monde, établissent un programme. Vous savez, ça fait bien d'avoir un programme. Tout est réglé, tout est ordonné, tout est agencé. Ah, une Église qui a un programme rempli, c'est merveilleux. Au moins, on sait où est-ce qu'on s'en va, qu'est-ce qu'on va faire. Est-ce que c'est vraiment le programme de Dieu? Quelle est la priorité du programme de Dieu? Je vais vous le dire, ce qui est la priorité du programme de Dieu pour chaque Église. Et quel est son mandat? Faire des disciples. On a beau se casser la tête pour essayer de faire un programme extraordinaire que, on espère, Dieu bénit, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas la façon de bien faire. Le mandat, c'est toujours la priorité de l'Église. Son mandat, c'est de faire des disciples. C'est ça le vrai programme. Alors, qu'est-ce que c'est que faire des disciples? C'est amener des âmes au salut. C'est les baptiser et les enseigner. C'est les enseigner de façon formelle ou informelle, j'ai marqué dans tout le conseil de Dieu et sa parole, c'est les paroles du Seigneur sont claires et compréhensibles pour tous, et pourtant, combien d'églises suivent réellement ce programme? Combien d'entre nous sommes en train vraiment de faire des disciples? Qu'est-ce qu'un disciple? Un disciple, c'est celui qui apprend. Littéralement, le mot grec nous dit que c'est un élève, c'est celui qui suit Christ, un élève de Christ, des gens même vont jusqu'à dire c'est un petit Christ. Autrement dit, les disciples, d'ailleurs c'est le mot qui revient le plus souvent dans le Nouveau Testament, c'est celui qui suit Christ. Et on a vu que celui qui suit Christ, qu'est-ce qu'il devient? Ah, vous avez retenu la leçon, j'espère. Qu'est-ce qu'il devient, celui qui suit Christ? Hein? Ouais, on devient un disciple. Suivez-moi et je vous ferai pêcheur d'hommes. Voilà. Un disciple, quelque sorte, il suit Christ et on en parlera dans un instant. Alors, qu'est-ce que c'est que faire un disciple? On va le résumer et vous allez voir que le programme de Dieu est très simple, en fait. Premièrement, c'est gagner une âme au Seigneur. Avez-vous déjà gagné une âme au Seigneur? Bien sûr que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il n'est pas question ici d'orgueil spirituel. C'est Dieu qui nous demande d'amener des âmes au Seigneur. Est-ce que déjà, dans votre vie, vous amenez une âme au Seigneur? Je me souviens d'un frère, d'ailleurs, que plusieurs connaissent ici, qui était pendant pratiquement 10 ans diacre dans l'église où j'étais le pasteur à Québec, et qui priait pour amener une âme au Seigneur. Et je le voyais, et puis il voyait d'autres amener, avoir la joie d'amener d'autres au Seigneur. Et le Seigneur, pendant des années, n'a pas permis qu'il amène une seule âme au Seigneur. Mais il avait un tel fardeau pour le salut des âmes. Il pleurait pour le salut des âmes. Et Dieu ne permettait pas encore qu'il gagne une âme au Seigneur, jusqu'au jour où ça a commencé. Et là, c'était en abondance. Il a pu glorifier Dieu au travers de cela. C'est une œuvre divine. J'aimerais vous dire, n'ayez pas peur d'amener une âme au Seigneur. J'aimerais vous raconter une anecdote, si vous me permettez, parce que je crois qu'elle a sa place pour vous montrer comment on a des craintes, n'est-ce pas, d'évangéliser puis d'amener une âme au Seigneur. J'étais tout jeune croyant. J'ai un de mes meilleurs amis, fils d'un industriel à Rocourt dans le Tarn, qui a perdu sa femme après 3 mois de mariage, d'un anévrisme au cerveau. Un matin, il s'est levé, sa femme était décédée, à côté de lui, dans son lit. Michel était quelqu'un qui avait été impliqué dans la drogue, révolté vis-à-vis de sa famille, toutes sortes d'histoires, sa jeune femme l'avait beaucoup aidé. Et là, c'était le désespoir. Donc, ses parents m'ont demandé de l'amener et de partir avec lui, avec eux, au ski, et on est parti. Je savais pas trop qu'est-ce que j'allais pouvoir dire, etc. J'étais en train de lire le livre « Comment amener des âmes de Jésus-Christ de Thoré ». J'avais jamais amené une âme au Seigneur. J'avais le désir de témoigner. Souvent, quand je témoignais, j'étais persécuté. Je trouvais ça très difficile. Et là, je me dis « Mais comment je vais en faire ?» Alors, dans le livre de Thoré, il y avait plusieurs catégories, les indécis, les incrédules, les raisonneurs. J'ai commencé à réfléchir en lisant. Je dis « De quelle catégorie fait-il partie ?» Donc, j'ai trouvé la catégorie, plus ou moins, bien, et je lui ai fait lire le chapitre. Et je dis, tu vois, dans ton cas, c'est comme ça que tu dois te convertir. Savez-vous quoi que ça a marché? Il s'est mis à genoux dans la chambre de l'hôtel où on était ensemble. Il a accepté Jésus dans sa vie. Et plus tard, sa mère a accepté le Seigneur, son frère a accepté le Seigneur. Ça montre la puissance de l'Évangile. Mais vous savez, la vraie motivation, donnez-moi ce temps de vous dire ça, la vraie motivation pour gagner des âmes, c'est l'amour. C'est la vraie motivation, c'est pas la gloire personnelle, c'est pas de gonfler des statistiques, alors là, hein, c'est l'amour de Christ. Comme dit Paul dans son expérience de cœur, car l'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. La vision de Paul en voyant chaque être humain, cet homme a besoin, cette femme a besoin du Seigneur parce que Christ est mort pour lui et pour elle. Dodson Trowman, celui qui est le fondateur de Navigateur, n'a pas le temps de développer cela, mais c'est extraordinaire dans sa vie, c'est un camionneur qui, à un jeune âge, a décidé avec un collègue de se lever tous les matins à 5 heures pour prier pour que Dieu l'utilise dans sa vie. Il a fondé les Navigateurs et au travers de ce mouvement a mené des milliers d'âmes au Seigneur. Il y a eu des réveils partout dans le monde à cause des Navigateurs. Il a dit ceci, n'importe quelle personne sauvée, et qui sait comment on est sauvé, a suffisamment de connaissances pour amener une autre au salut. Quelque part, il faut être fou de Jésus pour amener une âme au Seigneur. Maudit se promenait un homme sandwich. On l'a vu encore récemment aux États-Unis, il y a des gens qui se promènent, ils sont payés pour faire la publicité, avec une publicité devant, une publicité derrière. Ils se promènent dans la rue comme ça, et on les regarde, ah, qu'est-ce qu'ils veulent nous dire. Et Moody un jour s'est promené dans les rues de Chicago, il avait écrit dessus, « Je suis fou de Jésus-Christ ». Et les gens le regardaient, ils souriaient, ils se moquaient de lui. Seulement quand ils le voyaient passer, derrière il était écrit, « Et vous, pour qui êtes-vous fou ?» Ça faisait réfléchir. Parce qu'il y a bien des passions et des idolâtries dans la vie. Ça peut être le sexe, ça peut être l'argent, ça peut être le sport, ça peut être les études, ça peut être l'ambition personnelle, le travail. Le cœur de l'homme peut devenir idolâtre lorsqu'il n'y a pas Dieu. On peut critiquer quelqu'un qui est fou de Christ et être jugé pour cela. Mais croyez-moi, il vaut mieux être connu pour être fou de Christ que pour être connu pour vivre dans des liens amers, n'est-ce pas, de ce monde. Nous le savons, les enfants de Dieu. Pourquoi vous êtes devenu fou? C'est vrai que de gagner une âme, ça demande un effort, ça demande un labeur, ça demande des larmes. La Bible dit, celui qui sème avec larmes en son orange en allégresse, celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Mais gagner une âme au Seigneur n'est que la première étape du plan de Dieu, la former en est la seconde. Faire un disciple, c'est amener une personne non seulement à la connaissance de Christ, mais aussi l'amener à lui ressembler. La Bible dit, devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Imiter Dieu à l'exemple de Jésus-Christ, c'est là le vrai programme du disciple. C'est vouloir se conformer au caractère, pensée, volonté, plein de Dieu même. C'est rechercher de Dieu de tout son être, lui être soumis agréable par amour envers lui. C'est pour ça que la Bible nous dit, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. J'ai marqué, cela signifie qu'à l'école du Seigneur, la mise en pratique de la parole est le vrai examen. On se contente de savoir, mais on oublie que ce que Dieu apprécie, c'est notre savoir-faire dans ce domaine, de gagner des âmes. L'humilité restant le seul escalier d'honneur et l'esprit enseignable, l'attitude sine qua non de l'élève. C'est dans la mesure où j'apprends de Jésus que les choses sont transformées pour moi et pour les autres. Je vais terminer là parce que j'ai encore trop de choses à vous dire. Prions, s'il vous plaît. Seigneur notre Père céleste, tu vois, ce sujet est tellement important d'aller, de faire de toutes les nations des disciples. Je te prie, Seigneur Jésus, que tu puisses nous aider à discerner cette grande responsabilité que tu nous as confiée, ce grand mandat d'aller répondre à l'appel, toutes les nations, la vision du monde perdu, faire des disciples ton programme. Donne-nous dans ta grâce et nous te demandons humblement de suivre ce programme, de répondre à cet appel, d'avoir cette même vision pour ta seule gloire, Jésus. Amen.